Donc comment, sortis de là, ils vont pouvoir se construire en tant que peuple, hein, en tant que peuple. Et surtout, alors il y a l'aspect, je dirais, ethnique, parce qu'ils sont tous descendants d'Abraham. Or, dans le texte, il est dit, c'est un petit entre, pas un entre filet, mais un tout petit verset.
C'est dit souvent, quand même.
Hein?
Il me semble que
c'est dit deux fois. C'est dit deux fois, et c'est que au moment où ils sortent, la tribu descendant d'Abraham pourrait dire, au moins ça fait unité, hein, ils sont tous, ça fait un peu. Or, il est dit, à la tribu s'associèrent tout un ramassis de gens. Deux fois, il est dit, un ramassis de gens. Donc, ce peuple, certes, est pour partie descendant d'Abraham, mais est associé à un ramassis de gens. Donc, un ramassis, ça veut dire n'importe quoi. Des gens sans structure, sans... Bon, hein, au hasard. Donc, c'est pas très... c'est pas très valorisant, hein, un ramassis. Or, donc, la base de ce peuple va être des descendants associés à un ramassis de gens. Bon, vous voyez déjà que l'aspect ethnique, l'aspect pureté de la race, dans cette insertion de ce petit verset, il en prend un coup quand même. Ouais. C'est dit deux fois, donc l'Exode et un autre pas. Voilà, donc ils se retrouvent sortis. Alors, que vont-ils devenir? Que vont-ils devenir? Et là, il y a la fameuse traversée du désert. Ils vont venir, toute une génération va vivre dans le désert. Et dans cette période très difficile, ils sont libres, ils ont échappé à l'oppression égyptienne, mais ils sont démunis, libres mais démunis de tout. En plus, ils sont dans le désert, ils n'ont pas à bouffer, ils n'ont pas à boire, et ils ne savent pas comment, ils n'ont pas forcément des coutumes homogènes. Ce Moïse qui les a sortis va être l'objet au désert, va être l'objet d'attaque de ce peuple qui va regretter, hein, qui sont son séjour, enfin leur vie en Égypte. Parce qu'au moins, ils étaient certes esclaves, mais ils avaient à manger, à bouffer et à boire. Hein? Tandis que là, bon. Et là, donc, il va y avoir toute une éducation, hein, que Moïse, que Yahvé va faire par la médiation de Moïse, où Dieu va s'occuper de ce peuple. Hein? Il va lui donner à boire, il va lui donner à manger, la manne, hein? Il va faire, et donc, il va faire par des actions magiques, hein, où il va faire avec son bâton, il va faire couler de l'eau du rocher, sachant que dans ces pays-là, effectivement, les sources viennent des rochers, hein, c'est pas en terre, hein, l'eau vient des rochers. Bon, c'est un contexte qui est tout à fait vraisemblable en plus, hein, mais par des actions plutôt de type magique. À faire des miracles. Bon, des miracles pour que le peuple subsiste matériellement. Hein. Mais là, c'est pas suffisant pour faire un peuple. Hein. D'avoir à manger, à nourrir, c'est pas suffisant. Donc, il va y avoir cette fameuse théophanie où Moïse, dans sa relation avec ce Yahvé, va lui donner au peuple une loi. Ça sera les fameux 10 commandements, une loi des coutumes. En fait, les 4 livres de la Bible, il y a toute une des très très longues listes de coutumes, des règles et des coutumes qui reflètent les règles de ces époques-là. Le Lévitique dans le Lévitique, bon. Et c'est très très précis. Hein, ça va dans les détails de chaque, chaque détail de la vie quotidienne, tu feras comme si, quand il y aura ça, tu feras ci. Bon. Donc là, il y a la promulgation de règles qui sont le reflet d'une culture, finalement, hein, une culture de l'époque. Il faut, là aussi, il faut pas sacraliser ces règles, hein, sacraliser ces règles, parce qu'elles sont le fruit de la culture. Elles sont les fruits de la culture, mais qui permet à vivre ensemble. Donc, ce peuple-là va recevoir une loi, des règles, des coutumes et une promesse de territoire, parce que pour le moment, ils sont errants. Ils n'ont pas de territoire. Donc, pour faire un peuple, il faut un territoire. Hein. Et donc, il y aura cette promesse-là. Ils vont avoir en perspective. Ça sera en perspective. Hein. Et ils ne l'auront pas pendant 40 ans.
C'est la même promesse que tout à l'heure?
Alors, ça rappelle la promesse faite à Abraham, hein,
Oui.
qu'il aura un pays. Donc là, il renouvelle d'une certaine façon, donc il assure une continuité, hein, dans le récit. Hein, on va reprendre, hein, des promesses, mais cette promesse va trouver un point d'appui beaucoup plus concret. Hein, là, pour le moment, il leur faut un territoire, elles sont dans le désert. Et donc va se créer, dans cette phase de désert, va se créer un peuple. Et avec un culte. Oui, parce que le dernier aspect que j'ai oublié, c'est la religion. Donc là, la religion savait qu'il y avait. Et il y avait dans le premier interdit, c'est tu n'auras pas de Dieu. Autre que moi. Tu n'auras pas de Dieu. Si il a libéré d'Égypte, c'est que les Égyptiens avaient des dieux. Le Pharaon était un dieu. Et l'ordre qui est donné, c'est un ordre de rupture, là aussi, avec le sacré. Hein, c'est un ordre de rupture avec le sacré, en disant, tu n'auras pas de Dieu. Et le Dieu, ce sera la parole que je vais te donner. Et ce Dieu-là, tu dis, tu n'en feras pas, tu te l'imagineras pas. Tu ne te feras pas de représentation de Dieu. Hein? Parce que la tendance naturelle, c'est qu'il y a un Dieu, eh bien, on va le chosifier, d'une certaine façon. Hein? On va faire une idole. Idole, ça veut dire une représentation. Hein. Le mot, c'est une représentation. On va vouloir se représenter Dieu. Or, dans le premier interdit, c'est tu ne te feras pas de représentation. Donc ceux qui parlent de Dieu et qui savent bien qui est Dieu, eh bien, sont dans l'idolâtrie. Sont dans l'idolâtrie. Y compris après dans. Autrement dit, dans tous les fondamentalismes religieux, eh bien, ils sont dans l'idolâtrie. Parce que ce Dieu, il doit échapper à toute forme de représentation. Par contre, il y a une parole. Ce Dieu a une parole. Et cette parole, ce qui est demandé, c'est qu'il écoute la parole. Pas de représentation de Dieu. Il écoute cette parole, et cette parole vont être essentiellement là, des interdits. Et des interdits sous la forme indicative que je vous disais tout à l'heure. Et ces interdits, que sont-ils? Ben, c'est le béaba de la relation entre les hommes. Tu ne tueras pas. Vraiment du basique, quoi. C'est vraiment le béaba. La béaba pour qui est relation entre les hommes. Donc, vous voyez bien que cette révélation très spectaculaire au mont Sinaï, avec toute cette abondance. On s'attend à avoir une révélation de Dieu extraordinaire. Hein. On va savoir qui est Dieu. C'est toute cette force, toute cette puissance qui se manifeste, ce tonnerre, c'est tout ça. Et quelle est la parole qui en sort? Tu ne tueras pas. Hein. Tu feras pas de faux témoignages. C'est extrêmement basique, extrêmement concret. Tu prendras pas la femme de ton voisin. C'est des choses qui sont, je dirais, le béaba de la relation entre les personnes.
Est-ce qu'on peut considérer que c'est la naissance du monothéisme ?
Absolument. C'est la naissance du monothéisme. Donc il y a une concentration du divin, et ce divin ne doit pas être représenté, et ce divin, c'est une parole. Oui. Autrement dit, le divin, c'est une parole adressée à l'homme. Donc c'est une pédagogie. La manifestation, c'est un enseignement. Torah, ça veut dire enseignement. Enseignement pour l'homme. C'est pas Dieu qui cherche à se glorifier. Il passe par des manifestations extraordinaires pour attirer justement l'attention de l'homme. Parce que pour l'homme, il a besoin. Une simple parole comme ça, sans effet extraordinaire, eh ben, il serait pas écouté. Mais il va falloir se libérer dans cette parole progressivement, justement, de ses côtés magiques extraordinaires. Même si, au départ, il utilise ses instruments. Voilà. Donc, le peuple commence à prendre consistance, comme ça, au désert. Et finalement, ils vont pouvoir rentrer dans leur territoire qui leur est promis. Et là, oui. Dans cette éducation, on va préparer le terrain. Dieu va préparer le terrain à cette entrée. Alors, je vais vous lire quand même quelques passages de la Bible de la Bible où justement il prépare le peuple à ce qui va se passer.
Tu veux pas que quelqu'un le lise ?
Alors oui, je ne sais pas encore quels sont les textes exacts parce que je suis.
T'as le choix.
Bon. Alors d'abord Moïse. Moïse qui dit à Yahvé, tu veux le lire 33:12. Exode 33:12.
Ça peut être quelqu'un d'autre. Hein.
Ouais, mais tu es plus rapide à trouver. Oh.
Vous avez tous trouvé. Hein. Alors, 33:12. Moïse dit au Seigneur, vois, tu me dis toi-même, fais monter ce peuple. Mais tu ne m'as pas fait connaître celui que tu enverras avec moi. Pourtant, c'est toi qui avais dit, je te connais par ton nom. Et aussi, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et maintenant, si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton chemin. Et je te connaîtrai. Ainsi, de fait, j'aurai trouvé grâce à tes yeux. Et puis, considère que cette nation, c'est ton peuple. Il dit, irai-je en personne t'accorder le repos? Il lui dit, si tu ne viens pas en personne, ne nous fais pas monter d'ici. Et à quoi donc reconnaîtra-t-on que moi et ton peuple, nous avons trouvé grâce à tes yeux? N'est-ce pas quand tu marcheras avec nous et que nous serons différents, moi et ton peuple, de tout peuple qui est sur la surface de la terre? Le Seigneur dit à Moïse, ce que tu viens de dire, je le ferai aussi, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom.
Alors, là, il y a plusieurs... Bon, il y a la peur de Moïse. Hein, la peur de Moïse qui dit, bon, ben, tu m'as donné l'ordre de faire monter ce peuple, hein, mais ce peuple, il est bien lourd, il va s'en plaindre, et puis même, il a failli être lapidé par ce peuple. Donc, il lui dit, mais j'ai besoin d'un appui. Hein, j'ai besoin d'une présence, hein, d'être assisté par ce Dieu qui lui a donné cet ordre. Donc, il va l'avoir. Hein, fais-moi connaître ton chemin et je te connaîtrai. Alors, ça, c'est des phrases symboliques qui, après, vont résonner. Je ne m'y arrête pas pour le moment. Hein. Et considère que cette nation, c'est ton peuple. Dieu a créé son peuple. Donc là, il y a bien une élection. Il s'est choisi, il a créé son peuple. C'est une élection. Donc là, on est aussi dans le paradoxe. C'est un peuple particulier choisi. Et il lui demande, n'est-ce pas quand tu marcheras avec nous que nous serons différents? Quand tu marcheras avec nous, nous sommes un peuple différent. Hein? Moi et ton peuple, de tout le peuple qui est sur la surface de la terre. Il, à travers ce cheminement dans le désert, il y a la création d'un peuple, mais ce peuple est choisi, élu par Dieu, créé par Dieu, et donc différent des autres. C'est un peuple mis de côté, mis à part. Et alors, qu'est-ce qu'il est, quel est le sens de ce choix de mettre à part? Alors Yahvé va mettre en garde le peuple. Il est choisi par Dieu, c'est génial. Hein? Nous sommes les meilleurs. Hein? Et alors, lui, Yahvé va mettre en garde le peuple contre ce réflexe, disons, naturel, puisqu'on est un peuple élu. Parce que nous, dans notre esprit, l'élection, la contrepartie, c'est un rejet des autres. Hein? C'est mis à part, on est les meilleurs, et puis les autres se sont rejetés. Alors, là, le Deutéronome à 7-7, Deutéronome 7-7.
Quelqu'un veut lire ou je... Alors, si le Seigneur s'est attaché à vous et s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais si le Seigneur, d'une main forte, vous a fait sortir et vous a racheté de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte, c'est que le Seigneur vous aime et tient le serment fait à vos pères. Tu reconnaîtras que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai. Il garde son alliance et sa fidélité durant 1000 générations à ceux qui l'aiment.
Bon, on va se retenir là déjà.
Ceux qui l'aiment.
Donc, là, il dit très clairement, hein, ne te vante pas. Hein. Tu es le plus petit de tous les peuples. Un ramassis de gens. C'est le peuple élu. Mais ces gens élus sont des ramassis de gens. Tu es le plus petit de tous les peuples. Donc c'est pas l'élection n'est pas liée à sa grandeur. Nous, naturellement, hein, on extrapole. C'est ceux qui sont élus, ben c'est les plus grands. Hein, c'est les plus nombreux. C'est ceux qui ont le plus de mérite. Hein? C'est notre extrapolation naturelle, hein, l'élection. Or là, il dit, vous n'avez aucun mérite. Vous êtes le plus petit de tous les peuples.